France Inter.
Avec Mélodie Fontaine, Emma Beaujean, Oldela, Bruno Pecky, enfin Tanguy Bassureau, oui, Daniel Morin et nos invités Karine Villard et Monsieur François Cluzet.
Bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Ravi de vous accueillir, François. Comment allez-vous d'abord ?
Très bien, merci beaucoup.
Ravi. Nous allons parler.
Il va falloir changer de ton, hein. Il va falloir mettre un petit peu d'engouement, un petit peu de joie.
Ça commence.
C'est pas ma réputation.
Ça fait tellement longtemps qu'on vous a pas vu.
Fils 2. Le film est signé Carlos Abascal Peiro. Un film qui est puissant, qui a du pouvoir, puisque il va jusqu'à provoquer de véritables remaniements à Matignon pour faire la promotion du film. Et ça, c'est fort, quand même. C'est fort.
Vous savez, nous sommes puissants au cinéma, on arrive à tout faire. Non, ce qui est drôle, c'est que...
Vous n'avez jamais eu une telle promotion dans la
c'est fou. C'est dingue.
C'est fou.
Non, ce qui est drôle, c'est que, d'un côté, ce qu'on vit n'est pas si drôle, finalement.
C'est vrai.
Plutôt assez
triste.
Grave, important, triste. Et de l'autre côté, ce metteur en scène, qui a été journaliste politique en Espagne, fait une farce sur le pouvoir. Ça se passe en politique, ça pourrait se passer ailleurs, mais c'est vrai que la politique, c'est le meilleur terrain pour voir les choses.
La satire, oui.
Et la salade.
Et il y en a. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, petit tour de table sur... les pistons, les pistonnés, est-ce que vous êtes déjà fait court-circuiter dans votre vie par une fille d'eux ou un fils d'eux, Mélodie ?
Certainement plein de fois, oui, en casting, vu que j'en ai jamais, donc je pense que...
tu te dis que c'est quelqu'un...
Oui, ça doit être forcément ça,
c'est un enfant,
du tout dû à mon talent.
Ça n'a rien à voir avec ton talent, bien sûr. Est-ce que tu as croisé déjà des fils d'eux ou des filles d'eux, Emma?
Oui, pareil, en casting, souvent, ça m'arrive vraiment qu'il y ait de jeunes femmes qui aient le rôle et tout, mais bon, après, si ça marche, tant mieux. Moi, j'aurais aimé être une fille d'eux.
De qui?
Mais bon, papa. Mais en fait...
qu'ils te reconnaissent, lui.
Enfin, Daniel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mon papa, il travaillait à la radio il y a longtemps.
C'est
et
vrai.
J'étais persuadée quand j'étais petite.
Et j'ai bossé avec lui.
C'est marrant, c'est voilà. Vrai. Mais sauf qu'il a arrêté la radio quand j'avais 4 ans. Et en fait, il est censé. Du coup, aucun piston.
Mais pourquoi tu crois que c'est là?
Non, mais j'aurais trop aimé.
Leïla?
Je l'ignore.
Si t'en as croisé.
Alors, j'en ai croisé si.
Et à l'inverse, c'est-à-dire que vos enfants diront, je suis l'enfant d'Emma Beaujean.
Et bien sûr.
Bon, Mélodie,
de Leïla. Ma prof de théâtre avait dit ça. J'avais dit, je suis deg de pas être une fille ou un fils d'eux. Et elle m'avait dit, tes enfants seront très contents d'être la fille de Mélodie Fontaine.
D'accord.
Ça finira par arriver. J'en ai croisé de là à savoir s'ils sont passés devant toi parce que c'était des fils d'eux, c'est difficile à dire.
Non, mais en plus, j'y crois pas, Emma. C'est difficile d'être fille de, je te jure, c'est difficile.
Est-ce que tu demandes à tes enfants de ne pas dire, ou à ton enfant de ne pas dire que qui est maman? Qui est papa?
Elle est petite, elle comprend pas bien encore.
D'accord. Ouais. Ok.
Voilà, elle a 18 ans quand même.
Oui, mais elle a dur ça.
Elle est petite. Bruno, qui?
Moi non plus, je crois pas trop au népotisme, papa.
Très bien. Tanguy,
Non, moi c'était avant qu'elle devienne célèbre, puisque j'aurais dû être normalement adoptée par Johnny Hallyday, c'est Jade donc, qui est passée devant. Et voilà, donc, ça, c'est pas exactement.
Non, on n'est pas le droit.
Non, je suis désolé.
Oldelaf.
Non, moi j'ai profité un peu de ça, parce que mon fils avait besoin d'être pris dans une maison un peu qui s'occupait du handicap et tout. Et on est désolé, il n'y a pas de place et tout. Et il nous demande ce qu'on fait. Et moi je suis chanteur, mais vous êtes qui, Oldelaf? Et puis le lendemain, on avait une place, mais j'ai rien demandé. Et voilà, donc j'ai profité de...
Déjà, t'es tombé sur quelqu'un qui connaissait Oldelaf.
Mais ils connaissaient tous, figurez-vous, monsieur Nagui. Ils connaissaient tous.
C'est ouf. Daniel?
Moi, j'ai dû payer un peu les pots cassés. J'avais inscrit ma fille dans une école. Et dans la conversation, je dis que je connaissais Oldelaf. Elle a été virée avant de commencer.
J'ai fait des bêtises.
Il va falloir changer de ton avis pendant l'émission. Il va falloir parler plus délayé.
Alors, je peux pas balancer des noms.
Non,
je ne peux pas balancer des noms. D'autant que je me suis réconcilié avec ce fils d'eux, justement. Mais dans une, comment on appelle ça? Une compétition, un appel d'offres, voilà, chaîne de télé où on dit, amenez-nous des projets d'émission. C'est un fils d'eux qui a été pistonné et non seulement parce qu'il était fils d'eux, mais en plus pistonné par l'Élysée pour obtenir la tranche
ça
et beaucoup, l'émission. Et là, tu dis, il n'y a pas de game. Quoi. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et je fais tout pour, pour parler de mes enfants, je fais tout pour éviter qu'ils soient les fils d'eux et, ou les filles d'eux. Évidemment, c'est pas un cadeau qu'on leur fait en leur refusant ça.
Je crois que ta
ça.
Femme veut rester discrète, elle n'a pas envie qu'on parle d'elle.
Elle a changé de nom.
C'est pas un cadeau, mais c'est pas non plus une malédiction, c'est ce que je veux dire. En fait, ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai pas dit que c'était simple d'être fils d'eux, je dis simplement quand les fils d'eux ou les filles d'eux reconnaissent leurs privilèges, on les laisse tranquilles. En revanche, quand les filles d'eux et les fils d'eux disent, non mais moi j'y suis arrivé parce que j'ai travaillé dur, tu lui dis oui je comprends, mais tu n'as pas fait que travailler dur, tu es aussi né au bon endroit, et c'est juste avoir conscience et le dire, ça fait que c'est plus simple.
C'est dit dans le film à un moment donné, quoi. Au moins il faut avoir l'honnêteté de
reconnaître son privilège. Ouais, après, c'est pas grave. Après, en effet, tu finis là où tu es.
C'est que tu restes toujours le fils de ou la fille de.
Bah, quoi qu'il arrive. Qui que soit la mère ou le père.
Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, d'ailleurs.
Ouais. Et si ça, c'est pénible.
Si votre père est a été poursuivi pour des histoires judiciaires.
Comment vous le savez?
Parce que vous étiez un activiste dans ce film.
Est-ce que justement, alors François, vous avez fait attention à ce que vos enfants ne soient pas les fils d'eux?
C'est-à-dire, c'est délicat. Il y en a certains qui s'en sont plaints en disant, on me demande toujours des nouvelles de toi. Ah, mais tu es la fille de... Je dis, mais change de nom. Ah ben non, j'aime bien mon nom. Voilà, dans un paradoxe très délicat, quoi.
Karine Miam, bonjour.
Bonjour, excusez-moi.
Les avantages du direct. On se demandait, si vous aviez déjà croisé des filles d'eux ou des fils d'eux qui étaient un coup de fil dans votre carrière d'actrice ou.
Ah non, pas du tout.
Jamais.
Est-ce que mes filles seraient mes filles d'eux?
Voilà. Oui. Et là, comment vous les protégez?
Je sais qu'à l'école, à chaque fois, on leur disait, mais toi, c'est vrai que ta mère sait. Il y a des copines qui voulaient être amies avec elle parce que les mères, ça c'est quand même
un peu compliqué. Vous voulez dire?
Bien sûr. Après, ma fille est née avec des copains qui disaient, tu peux bien nous payer ça. Ta mère, elle est riche, elle est
actrice, donc elle est milliardaire.
Oui, c'est ça. Donc bon, elles ont dû dealer avec ça. Je pense que c'est pas rien non plus.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que c'est un bon point de départ dans la vie, on va pas se mentir.
C'est les deux.
Le film sort ce mercredi, Karine Viard, François Cluzet dans Fils de, le premier long métrage de Carlos Abascal Pierrot, donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, ex-journaliste reporter, on en parle jusqu'à 12h30, mais d'abord voici votre plus grand fan, Oldela, fan de Karine et François.
Je suis fan de Karine Viard. C'est pas du tout la sœur d'Hervé Villard. Dans les randonneurs, vous m'avez appris à randonner. Mais bon, j'ai arrêté parce qu'il fallait vraiment marcher. Je suis fan de François Cluzet. Depuis Les Apprentis, c'est succès sur succès. Vous aurez un deuxième César avec ce rôle, peut-être. Faut juste pas que ce soit Lindon ou Bigard qu'il remette. Et vous êtes là ensemble pour le film Fils de, qui sera premier ministre dans le film, c'est ça l'enjeu. Bon François, je sais que c'est un rôle, vous êtes comédien, mais s'il vous plaît, faites-le vraiment et remplacez machin. Moi, je construis des marionnettes avec des coups tordus et des faux papiers. Oh oh oh, elles sont au sport à l'intérieur, c'est chouette. Il y a même Tati qu'on a pu placer. Bon, c'est un ministère qui compte pas, mais c'est bien payé. L'une d'entre elles est la plus belle. Bayrou, ministre, oh, il est tout content. Oh, ça fait 10 mois qu'il se gamelle. Mais il est plus là pour très très longtemps. Je suis fan de Karine et François. Je suis fan de Fils de. On dit qu'elle est parfois. Vous êtes nos invités, on vous fera pas le mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Oldela.
Pas facile à faire ça. ça.
Non. C'est pour ça qu'il essaye tous les jours. Fils de, il y a aussi cette connotation qui est une insulte. Fils de, c'est le début quand même d'une insulte. Généralement, c'est pas un compliment quand on commence une phrase comme ça. Non, vous voyez pas venir le fils
si,
de.
Bien si, bien sûr, voilà. J'ai tellement envie de dire le mot.
Non, et je pense que Carlos y a pensé, non. Et je pense que Carlos y a forcément pensé, j'imagine, en appelant le titre comme ça, parce que.
C'est vrai que c'est un drôle de titre. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était.
C'est un état. On est tous les enfants de ses parents, ça c'est sûr, fille ou fils.
En même temps, pour la politique, ça marche bien. C'est-à-dire que tout le monde se coopte. T'es le copain d'eux, t'es le fils d'eux, t'es. En politique, c'est vraiment une espèce de.
Oui, mais
de bonne
fils
de,
ça sonne insulte, alors que non. Fille de, non.
Mais ça sonne pas insulte, fils de.
Bah si, parce que t'as
mais
la
non,
suite.
Non, mais c'est assez clair, c'est un fils de. Tu dis parce que
de,
son père ou sa mère.
Ce qu'on entend, fils de machin. Ah, oui.
Si vous mettez tous contre moi.
Bah oui,
moi je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup.
Enfin, il est question de tuer le père, quoi. Il faut
c'est
tuer
ça,
dans le film.
Alors, précisons qui est le père, parce qu'on commence par une espèce de flashback. On a une image d'ailleurs autour de. C'était Mitterrand, donc il mangeait ses oiseaux interdits.
Les ortolans.
Sous la serviette, c'est ça. On est dans un restaurant cossu parisien avec deux hommes politiques, un enfant au milieu qui lui n'a droit qu'à un kiwi parce qu'il est
il est gros,
il est trop rond, c'est ça. Mais je cherchais à le dire plus élégamment, mais c'est ça.
Mais oui, au bout d'un moment il faut dire les trucs.
Un chat, un chat.
Voilà, décidément très connecté. Oui.
C'est gênant.
C'est la première fois que ça arrive avec Daniel.
Wow, quelle belle journée.
Et arrive une espèce de gang de l'époque, en tout cas, qui vient, ils sont pas très doués, ils font sauter un micro-ondes avec des œufs, mais surtout ils récupèrent une mallette pleine de, on sait pas quoi d'ailleurs, mais une sorte de trésor en tout cas dans cette mallette. L'un se fait amputer de son doigt, qui sera le signe pour qu'on le retrouve après dans l'histoire des années plus tard. Cette espèce de militant politique
un peu anard,
ouais, je savais pas quel terme lui donner. En tout cas présenté comme candidat de gauche, on voit les affiches dans le film, c'est vous, François Cluzet, qui n'a pas envie de revenir aux affaires.
Oui, en effet, mais écoutez, c'est parfaitement dit.
Il est sénateur.
Oui, il est sénateur, et puis alors, comme vous le disiez, il fait partie un peu d'un mouvement anard, voire ultra-gauche, enfin bon, il faut prendre les gens sur le fait. Ce qui est drôle, c'est ce qu'il va devenir, ce gars-là, parce que finalement, on en est tous réduits à prendre de l'âge, et en prenant de l'âge, on fait un peu... Comment dire, la différence entre nos faits et gestes, on est très tolérant avec soi-même.
Oui.
Il faut essayer de vieillir léger, donc on essaye d'oublier évidemment nos torts et nos travers.
Est-ce qu'on finit par arrondir les angles justement ou accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées quand on était militant?
Alors ce qui est drôle là, c'est que le vieux, parce que quand même il a de l'âge, il est devenu terriblement égoïste et perso, quoi. J'aime beaucoup cette scène où
un peu conservateur quand même finalement.
Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est
on le revers.
On devient comme ça, le revers.
En vieillissant, on devient tous de droite, c'est atroce.
C'est ce cri du cœur.
Et il y a de plus en plus de vieux, donc c'est dire.
Et vous êtes Karine Viard, la conseillère du président, c'est-à-dire que vous contactez finalement les hommes politiques ou les femmes politiques en leur demandant, ou en suggérant leur nom d'ailleurs, en leur demandant si oui ou non ils acceptent le poste de Premier ministre.
Oui,
tout le monde refuse.
C'est-à-dire que moi je suis l'éminence grise, on ne sait pas exactement quelle est ma fonction, mais en tout cas.
Conseillère particulière du président, non ?
C'est ça, je suis au cœur de tout.
Ouais. Et très bien coiffée. Ah, oh, cette coiffure vous
immonde,
va mais...
immonde.
Ah,
non, mais
elle vous met tellement en valeur,
non.
En vous,
non, mais ce qui
charme.
Est très drôle quand même dans ce film, c'est qu'on est tous déguisés. C'est vraiment le metteur en scène qui est espagnol, qui a quand même un univers un peu différent. Ça l'amuse de déguiser les gens, ça l'amuse de... on est vraiment dans une farce, on est dans du burlesque, on est dans du satirique, et en même temps tout ça est sous-tendu par des choses extrêmement réelles, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc cette femme existe, elle est assez déguisée, hein, ce serait une espèce de
Marie Chantal,
de Cato de gauche, en fait, hein, de Cato de gauche.
Cato de gauche, d'accord.
Ah bah, pour moi c'est Cato de gauche.
Mais qui pourrait être tueuse à gages en même temps.
Mais qui est absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'elle porte effectivement un mystère. Elle semble parfaitement lisse et en même temps, tu vois bien qu'elle est quand même bien plus rappeuse que ça.
Très rock, même.
Oui, oui, oui.
Elle est dangereuse.
Prête à la dangereuse parce qu'elle a du pouvoir. Ouais. En politique, quand tu as du pouvoir, tu es et dangereux et très séduisant.
Et la folie, c'est qu'elle vient convaincre donc ce fils d'eux, ce Nino,
absolument,
d'aller convaincre son père d'accepter Matignon.
Oui, parce qu'on lui a déjà proposé plusieurs fois et que ça lui a quand même passé sous le nez. C'est-à-dire que tu dois aussi, en politique, avaler un certain nombre de couleuvres.
Oui.
Et tout ça est quand même...
C'est l'excellent Jean Chevalier, pardon, de vous interrompre, Jean Chevalier de la Comédie Française, que je n'ai pas encore cité, qui est formidable.
Qui est merveilleux.
Et qui est totalement crédible dans le rôle de votre fils. Hein. Je trouve qu'il y a le même talent, il y a un truc physique un peu qui... Il est crédible. Vous avez fait un test ADN ou pas ?
Il est épatant, cet acteur, parce qu'il a conservé une candeur, ou en tout cas, il sait l'offrir, cette candeur, cette innocence qui disparaît avec l'âge là, et puis c'est vraiment un partenaire de rêve. Il est très bienveillant, il est généreux. C'était vraiment chouette de l'avoir comme leader, puisqu'il a le rôle principal. Ouais, c'était chouette.
À vos côtés, donc, il y a aussi Alex Lutz, que je n'ai pas cité. Alors lui, il a une espèce de boss comme ça, même sa posture là, ça dégaine.
Bah, lui, il est déguisé en ancien gros avec des boutons.
Ah oui.
Lui.
Moi, j'ai pensé à Raffarin, moi.
Ah bon, ça lui fera plaisir.
Il est cynique, le personnage, oui, voilà. Il a un côté très cynique, aussi de l'ombre, en fait, il manipule.
Bah, il sait que quel que soit le Premier ministre, il sera ministre des Finances.
De l'Intérieur.
Quel que soit le Premier ministre, il aura le poste.
Ouais. Non, c'est assez intéressant, parce que c'est... Comme le metteur en scène est très renseigné, puisqu'il était journaliste politique avant de faire du cinéma...
Donc il y a beaucoup d'histoires vraies, vous voulez dire, là-dedans?
Tout ça est très vraisemblable, en fait.
Absolument.
C'est du côté de la comédie, mais c'est vraisemblable, et en même temps, t'as l'impression qu'il met les mains dans le cambouis et qu'il fait une espèce de Macédoine avec tout ça. Tout est vraisemblable, tout est possible. Et rien n'est vrai.
Et drôle.
Et en même temps, tout est vraisemblable et tout est fou. Parce que, par exemple, aller demander à un fils d'eux de convaincre son père d'accepter Matignon, ça dépasse l'entendement. Mais comme la politique nous réserve tellement de surprises et que chaque épisode, à chaque fois, on a l'impression que c'est tiré d'un scénario absolument dingue...
Et attends la semaine prochaine.
Voilà. Ça en devient hyper vraisemblable. C'est ça qui est assez fort. On est entre la fable, la satire politique et en même temps, dans quelque chose où on est spectateur, on se dit mais ça pourrait peut-être arriver, puisqu'à chaque fois les épisodes ne nous déçoivent pas.
Mais en même temps, les hommes politiques sont convaincus, c'est-à-dire que l'exercice du pouvoir doit se faire avec un nombre invraisemblable de manigances, mais moi je suis persuadée d'une forme de
foi
de foi en politique. Ouais. Enfin, je veux dire, les hommes politiques aujourd'hui, plus personne ne croit aux hommes politiques, mais en réalité s'ils travaillaient dans le privé, ils gagneraient 15 fois plus que ce qu'ils gagnent en politique. Donc ils le font avec une foi et une conviction. Et je trouve qu'il y a quelque chose.
Ils ont l'appétit du privé.
Ils ne sont pas tous assez talentueux pour être dirigeants privés, il faut être honnête.
Ils ont l'appétit du pouvoir, surtout.
C'est vrai.
Ils ont l'appétit du pouvoir. Et ils y trouvent sûrement un intérêt personnel. Parce que ce qui ressort aussi du film, c'est que tous ces politiques, hommes ou femmes politiques, ne sont pas là pour parler de la cause commune et du pays, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays. Ils pensent essentiellement à leur carrière et à rajouter une ligne à leur CV.
Non, c'est surtout... c'est parce qu'on les prend à ce moment-là de l'histoire, mais en réalité, ils doivent avoir un projet politique, ils doivent avoir envie d'eux, mais pour arriver là où ils veulent, ils doivent quand même vraiment manigancer.
Faut le voyer.
Ouais. On parlait de fils d'eux, mais... Tu imagines ce qui se passe pour les enfants d'un homme politique qui se fait insulter en permanence.
Bien sûr, ouais.
Ton père a dit à la télé hier, mais moi mon père a dit quel con ton père. Enfin, c'est terrible d'être l'enfant, le fils ou la fille d'un homme politique.
Et encore plus si on veut marcher sur ses traces, parce que c'est aussi ça.
Oui,
c'est-à-dire que le personnage de Nino, incarné par Jean Chevalier...
C'est le cas du fils Sarkozy. Voilà. Oui.
Je ne sais pas si Pasqua avait des enfants, mais à l'école ça a dû barder, n'est-ce pas, monsieur Morin?
C'est vrai. Il y a eu quelques disparitions.
On en parle jusqu'à 12h30. D'abord, voici Bruno Pecchi.
Oui, oh, Bruno.
Parce que Bruno, oui, vous n'auriez pas fait ce film comme ça, vous, si vous aviez le choix.
Bah, effectivement, j'aurais pas fait ça comme ça, quoi. Et par ça, je parle déjà de me confier cette chronique. Hein. Et toutes les semaines, en plus. Hein. À moins que je me plante lamentablement ce matin et que. Non, même avec ça, je me fais pas de soucis, quoi. Je coûte tellement pas cher, il y aurait aucune plus-value à me virer. Il y a des plans d'économie en ce moment. Hein. Et si votre cher ministre de la Culture apprend mon cachet, elle va même dire, mais il faut le garder, lui. Tous les jours. Et sur d'autres émissions, il peut pas présenter le JT aussi. Donc voilà, maintenant je remplace Lisa Delmoitier une fois par semaine. Je vois déjà les commentaires sur internet. Mais pourquoi vous avez foutu le Suisse à la place de la Belge? Rendez-nous Lisa, sinon qui va nous parler de Schopenhauer et de sodomie pendant qu'on prépare à manger?
Oh. C'est vrai.
Et en plus, aujourd'hui, on reçoit qui? François Cluzet et Karine Viard, quoi. Et moi, je suis censé leur dire comment faire leur boulot. Avec des invités de ce niveau, faut mettre la titulaire, pas le remplaçant junior, quoi. Mais je suis content de faire mon baptême avec vous deux. Dernière fois que vous êtes donné la réplique au cinéma, c'était en 2006 pour le tournage du film La vérité ou presque, film que je n'ai pas pu voir car il était conseillé aux 10 ans et plus, et à l'époque, j'en avais que 6. Oui, alors beaucoup d'informations dans cette phrase, hein. On va revenir dessus, oui, je sais pas ce qui est plus choquant entre le fait que la dernière scène commune de Karine Viard et François Cluzet remonte à l'année du coup de boule de Zizou, ou le fait que j'avais 6 ans lors du coup de boule de Zinedine Zidane. Voilà, désolé pour le coup de vieux.
C'est vrai.
Me demandez pas si Yannick Noah c'est un joueur de tennis ou un chanteur, vous allez pas aimer la réponse. Bref, revenons au film que j'aurais effectivement pas
petit
fait comme
con.
Ça, quoi.
C'est ça.
Ouais, j'aurais pas fait ça comme ça. Déjà le titre, quoi, fils de. Mm. On l'a dit, mais on est clairement sur l'insulte. Ah ben, en croisant Monsieur Cluzet ce matin dans l'ascenseur, je lui ai dit j'ai adoré votre film, fils de. Bah, il était vénère, hein. J'ai failli m'en prendre une. Bah, il y a que dans Intouchables qu'il est tétraplégique, hein. Dans la vie, bouge bien, François. Surtout pour son âge, comme le m'a si bien souligné Daniel.
Oh, wow.
Allez. Et donc, pour revenir au contenu du film, est-ce que j'aurais fait différemment? Bah, disons que j'aurais allé chercher un peu plus loin dans mon imagination.
Ouais.
Voilà. Non, mais dans votre film, il y a quoi? Le président de la République qui galère à nommer un premier ministre. Un politicien qui a peur que sa compagne journaliste entache sa carrière. Mm. Ou encore le fils d'un ancien poids lourd de la politique qui rentre dans l'espace médiatique. Mais où est-ce que le réalisateur a puisé son inspiration, quoi? Il a pris sa télécommande 5 minutes, il a noté ce qu'il voyait, quoi. Mais je suis d'accord avec ce que vous nous avez dit hors antenne, Nagui, hein, y a zéro effort d'écriture, quoi. Bon, après, je trouve que vous êtes allé un peu loin, Nagui, quand vous avez dit que même pour le remake d'Interville, il y avait plus d'originalité de scénario, mais bon. Là, il faut quand même souligner un détail important du film. Il commence avec un ancien politicien du PS qui est reclus et qui refuse de revenir sur le devant de la scène. Ah bah, à ce niveau-là, c'est de la science-fiction. Ah non, non, mais ça n'arriverait jamais dans la vraie vie, quoi. Je veux dire, tous les 6 mois, on a Valls, Royal et Hollande qui nous rappellent qu'ils sont dispo pour la présidentielle. Je veux dire, si on vous a pas rappelé, c'est peut-être pas parce qu'on vous a oublié, hein. Bon, je fais le mec outré par la politique française, alors que je suis même pas vraiment concerné. Je suis suisse. On s'en fout, on fait même pas partie de l'UE. On regarde vos vies politiques comme une série à suspense, hein. Dites-vous qu'actuellement, la moitié de la Suisse est en rupture de stock de pop-corn en prévision du vote de confiance de la semaine prochaine. Et pour vous donner une idée, nous, notre dernier scandale en date, c'est que notre présidente a eu un téléphone avec Donald Trump qui s'est mal passé. Voilà. Et ça, c'est un scandale chez nous, hein. Aux US, ils ont déjà oublié. Trump s'est engueulé avec 24 autres chefs d'État depuis, quoi. Bref, Karine et François, je voulais quand même vous dire, dans le film, je l'ai trouvé très bon. Voilà. J'imagine qu'après 4 Césars à vous deux, ça doit faire quelque chose d'avoir ma validation. Heureusement que vous êtes déjà assis, hein. Non, mais sincèrement, j'ai beaucoup aimé votre film Fils de, tellement que j'ai hâte de voir le 2, qui s'appellera sans doute Petit-fils de. Non, alors moi non plus, j'ai pas aimé cette vanne, hein, mais je vous ai prévenu, vous auriez pas dû me laisser faire cette chronique. Yeah.
Bravo. Bruno Béguet, je pensais que t'allais dire j'ai vu Fils 2, j'ai pas vu le premier. Bruno...
Non, pas sur scène, il est trop jeune.
Non, ok, d'accord.
Tu l'apprends, allez, voilà.
Non, le 12 septembre à Renan.
Voilà. Jean Chevalier avec donc Karine Viard, François Cluzet, mais également Alex Lutz, Émilie Gavoacan, Olivier Broche, Soissane Abès, Marc Zinga, qui est formidable également, Nathalie. C'est vrai que t'as raison de le dire, Bruno, ça joue extrêmement bien, il y a de très bons acteurs et actrices, Nathalie Richard, Vincent Grasse, Benoît Astrulus, Francis Leplay, Guylaine Londès, Fred Blin, Saadia Bentayeb, Marc Susini, entre autres dans ce film. Quand on signe et quand on dit oui, je vais participer à un premier long métrage, est-ce qu'on n'a pas quand on est une actrice et un acteur qui a tourné avec les plus grands, un petit pincement au cœur en se disant qu'est-ce que ça va faire, ou à l'inverse vous vous dites c'est cool d'aider un premier long à se monter.
Moi, vraiment, ni l'un ni l'autre.
Vous pensez à quoi?
Bah, ni j'ai peur, ni je me dis je vais aider de ma présence un jeune réalisateur. Moi, j'ai toujours envie d'être très excitée dans mon métier. J'ai toujours envie d'avoir des challenges, qu'on me propose des choses. La vie avance, tu vieillis, tu te transformes, tu te modifies. Donc, le souhait que tu as en tant qu'acteur, enfin, je pense que c'est pareil pour toi, François, c'est d'avoir des propositions à la hauteur de notre désir.
Donc, c'est le texte avant tout et pas...
Bah, c'est l'aventure.
D'accord.
C'est l'aventure, c'est quoi ce personnage? Moi, j'avais jamais fait ça, j'avais fait une série politique pour France Télé, ouais. Mais j'avais un personnage complètement inverse, très amusant. J'avais jamais joué ça, j'ai vu quand même qu'il y avait un univers incroyable. Le réalisateur est extrêmement charismatique, à la fois très sympathique, très intelligent. Moi, j'aime bien tourner avec des gens d'une autre culture parce qu'ils t'amènent autre chose. Bah, d'un seul coup, bon, qu'est-ce que tu risques? Ok, le gars n'a jamais rien fait, donc le film peut être nul. Est-ce que c'est un grand risque? Oui, bon, voilà. C'est un risque quand même mesuré. Ouais. Tu risques de faire un film pas bien.
Ça change.
Bon, ce serait pas non plus le premier ni le dernier de ma carrière non plus. Et à chaque fois, j'ai choisi ça en me disant, ça peut être bien. Ouais. Bon, et si ça l'est pas, ben ça l'est pas.
Il faut y croire, quoi, dès le début. Ouais. François, ben, aussi, oui. Pareil.
Alors, moi, j'ai rien compris au script, c'est déjà un mauvais départ, mais montrer le feignant que je suis, on m'a dit que Karine Viard était dans le film. J'ai appelé tout de suite Karine, disant, alors c'est quoi cette histoire de film?
Ah, ouais,
Karine m'a dit, rencontre le metteur en scène, tu vas tout de suite être impressionné, séduit par l'intelligence du type. Et c'est ce que j'ai fait.
Merci Karine.
J'étais vachement content. Ensuite, j'ai relu.
C'est pas étonnant. Alors, pardon, c'est pas étonnant qu'à la première lecture, vous vous demandiez ce qui se passe, parce que c'est vrai que ça part un tout petit peu dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des caractères extrêmement forts et un poids sur l'intrigue, qui sont pas juste des figurants. Et on a besoin de se repérer.
À la lecture, c'était vraiment difficile.
Oui. En voyant le film, que les choses deviennent fluides, parce que c'est tellement entremêlé entre tous les personnages.
Absolument.
Il y a nombreux personnages. Ouais. Et puis les intrigues sont tous donc voilà, tu sais.
Puis il y a descendu sur Placenta, enfin il y a des choses quand même.
Ah ouais, exceptionnel.
À quoi on a droit dans le
savon? Mais comme quoi c'est bon d'avoir une amie dans ce métier, exigeante. On dit si elle est là, c'est que c'est bien.
Et rassurante, hein, c'est ça aussi. Il y a des donc ces histoires qui sont entremêlées autour de la politique. C'est une comédie sur les coulisses du pouvoir.
Les coulisses, pas les coulisses.
Les coulisses.
Non, enfin, tu laisse tranquille un peu.
Coulissier.
Mais non, c'est pour l'aider. Hein.
Les coulisses du pouvoir qui résonnent étrangement dans toutes les promotions que vous faites. Tout le monde vous en parle en disant c'est incroyable avec ce qui se passe en ce moment et ainsi de suite. Le film, lui, a été tourné quand?
Janvier.
Politiquement. C'est-à-dire que c'était
un... Il faisait froid.
Janvier 23.
Il y a deux ans.
24. On est 25.
Oui, là, on est en 25.
Septembre 25.
Ah oui, non, 24.
Janvier 24.
J'ai un problème avec la frise du temps.
Non, mais donc vous étiez déjà dans une actualité, on va dire, chaotique en France avec des remaniements.
Dissolutions.
C'est ça.
Puisque ça fait 50 ans que ça dure en France. Donc... Non, j'exagère.
Mais... Bah,
non,
là, on en a 5 en un an.
C'était moins brûlant que maintenant.
Okay. Hein, il n'y a pas encore eu de dissolution, là.
Très clairement.
Il n'y avait pas la dissolution. Non, il y avait des Castells, il y avait des Édouard Philippe. Il y avait pas mal de remaniements, quand même, déjà.
On a connu ça un peu en Belgique au moment où ils avaient plus de gouvernement.
La politique se mêle souvent du cinéma. Est-ce qu'on vous demande de venir à des dîners dans des ministères, de rencontrer des...
Comme acteur, t'es globalement beaucoup sollicité par la société civile aussi pour intervenir en politique. Oui, pourquoi pas. Moi, je suis pas la plus représentante de ça, mais je suppose que oui. Après.
François, vous n'avez jamais eu votre langue dans votre poche quand vous parlez politique. Ça vous a attiré des sympathies ou au contraire des inimitiés?
Non, vous savez, j'avais...
Maintenant que t'es de droite.
Oui.
C'est vrai, ça.
Et alors, quand j'étais très jeune, j'étais écologiste, puis j'avais soutenu Dominique Voynet.
Oui.
Et puis avant, j'avais soutenu un néo-communiste, Pierre...
Bah vous l'avez tellement soutenu que vous l'appelez Pierre.
Voilà.
Très Pierre proche.
Non, c'est délicat. C'est délicat parce que je pense toujours au théâtre en disant, bon, alors, ceux qui sont d'extrême droite et d'extrême gauche lèvent la main. Bon, allez, dors. C'est pas possible. J'ai toujours l'impression que les artistes mangent à tous les râteliers. Et de fait, je m'intéresse beaucoup à la période de l'occupation. C'est très intéressant quand on voit comment les artistes se sont comportés, à part certains...
Et qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été à leur place aussi? C'est la question qu'on peut se poser.
Évidemment. Pire.
Évidemment. J'ai préféré ne pas vous la poser à vous, la question.
Je n'aime pas quand tu dis du mal de toi.
Non, c'est drôle, c'est barré. Le film est original. On voit une espèce de patte espagnole à la Almodovar aussi, parce que c'est vrai qu'il y a
dans le
rythme auquel ça va. Et puis dans la musique qui l'accompagne aussi.
peu.
Une parodie de film d'époque.
Mais c'est-à-dire que c'est très innovant, en fait. C'est très nouveau. C'est un film qui a une patte vraiment particulière. Je ne sais pas si les gens ont envie de le voir, mais c'est vraiment original. C'est mené tambour battant. Mmh. C'est foutraque, en même temps, c'est complètement maîtrisé. Bah, c'est virtuose. C'est
bien joué, c'est bien réalisé.
C'est bien incarné.
Les personnages sont bien développés.
Oui, tout à fait.
Mais tu as raison aussi de dire que le cinéma espagnol, en ce moment, ça y va. Hein.
En ce moment, ils sont vraiment dans un.
Et les séries aussi.
Oui, bien sûr. Et la série dont tu parlais sur Arte, je crois que c'est une série espagnole.
La Messia.
Ils ont une dynamique extraordinaire, comme on l'a eu.
C'est très particulier, mais c'est très fort, très beau.
C'est demain au cinéma que sort donc Fils 2, qu'on vous encourage à voir. Voici Mélanie Fontaine.
Oh, bravo. Que se passe-t-il, Mélodie? Pourquoi ces oreilles pointues? Pourquoi ce maquillage? Vous faites un jeu de rôle toute seule?
Ah non, mais désolée de travailler, Leïla, là. On dit les jeunes ne veulent plus travailler. Bah, les demi-vieilles, oui, Shrael. J'enfile pas des pingouins, j'essaie de lancer ma carrière, en fait.
Comment ça? Et surtout, pourquoi? Vous cartonnez, vous êtes un monstre de talent.
Oh, merci, Leïla. Merci de si bien lire mon texte. En fait, je vais vous expliquer, voilà. Ma carrière, bon, on décolle pas aussi fort que j'aimerais. Vous voyez une fusée?
Oui.
C'est bien. Non, mais je vais pas me plaindre. C'est juste que... Bon, allez, je vous révèle un peu les coulisses du métier. On est entre gens de confiance. Daniel est parti chercher un café. Voilà. Mon attachée de presse s'est embêtée. Elle m'a dit « Je suis pas hype. J'ai rien de remarquable. Quoi. Je ressemble à plein de comédiennes, mais en moins bien. Je mérite pas de vivre, en fait. Oh. » En firme marketing, j'ai pas de persona à mettre en avant. Mon attachée de presse, elle m'a dit « Ton spectacle est fun, mais j'ai rien pour m'accrocher. » J'ai dit « T'as rien pour t'accrocher? T'as rien pour t'accrocher ?» Va dire ça à mon mec. Je lui ai répondu, c'est plus des seins que j'ai, c'est des serpents qui servent de liane. Hein ? Mon mec, il se prend pour Tarzan, quand il se lève pour pisser la nuit, il s'en sert pour passer de la chambre au WC. Alors, t'as rien à t'accrocher. Non, mais c'est pas ça qu'elle me marmonne, c'est qu'en fait, bah, t'es classique. Alors là, oui. Là, c'est vrai. Je ne suis pas très dissonante. Hein. Je dissonne pas des masses. Même mon alarme d'iPhone dissonne plus. Là, je suis lambda. Je suis pas gay, je suis pas trans, je suis pas trave, je suis pas non-genré, bispirite fluide, pinagenré, non-binaire, ascendant aspergé, je suis pas corse, pas belge, pas noir, pas asiate, je suis même pas bronzée des coudes, je suis chiante comme la pluie, en fait. Je suis pas facile à vendre. Alors attention, je dis pas que c'est du racisme anti-blanc, hein. Je suis pas encore totalement con à ce point. Tout ce que je dis, c'est que j'ai pas eu de caméo dans Bref saison 2. Donc je me pose des questions.
Bah, moi non plus dans Bref 2. Mais alors vous avez tourné votre truc, c'est devenir un elfe, quoi.
Voilà, je me suis interrogée, en fait. Je me suis dit, Mélo, ma poire anale usagée.
Oh non.
Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde, à part le rouge tannique et les chips au paprika? Eh ben, j'aime les animaux et le shampoing. Paf. Bah voilà, je suis tout bonnement un elfe, en fait. À part aujourd'hui, bon, alors, à partir d'aujourd'hui, je suis xénogenré, d'accord? Pour les boomers qui savent pas ce que xénogenré signifie, c'est très simple, Nagui. Ce sont des individus non-binaires qui utilisent une métaphore poétique pour se décrire. En l'occurrence, pour moi, bah, c'est elfe.
Et pourquoi un elfe? Je sais pas, moi, un minotaure.
Ah, oh, Leïla, que vous êtes naïve. Comme on dit chez nous, les elfes sylvains, « Oh, Mattia, il a qu'à Vanetiello !» Ce qui veut dire « Ta voix rayonne de beauté
wow. ». Ah ouais, d'accord.
Ou dis donc, c'est des vrais, je peux tirer dessus. Enfin, je sais plus, j'ai débuté en elfique. Leïla, est-ce que je peux vous appeler par votre nom elfique? Ça vous dérange pas?
Non,
Leïla Kadour.
Oui.
Oui, non, en fait, c'est presque pareil. On va rester sur Leïla Kadour. Si j'ai vrillé elfe, c'est que je me suis toujours sentie un peu elfe, en fait. J'ai toujours été proche de la nature et aussi, il me restait des oreilles pointues d'une ancienne chronique. Voilà, j'en ai acheté 5000. Si vous avez une soirée chelou, n'hésitez pas à me demander. Hein. Après, je ne sais pas si j'ai bien choisi parce que je tire très mal à l'arc et les nains ne me dérangent pas plus que ça. Et je déteste le Seigneur des Anneaux. Un vieux monsieur en robe qui s'invite chez des petits bonhommes. Merci, mais on en soupe déjà aux infos. Bref, voilà, je suis elfe, ça y est, j'ai une spécificité. Maintenant, j'attends que le Cinoche me contacte. Enfin, j'attends, mais pas trop quand même parce que je suis pas éternelle non plus, c'est-à-dire que je suis pas une vraie elfe, donc n'hésitez pas, quoi. Alors, voilà, bon, j'ai pas envie qu'on me mette dans une case, Mélodie Fontaine, ah oui, l'elfe, là, hein, la sale elfe, là, on me colle pas d'étiquette, merci, je suis allergique à la colle des étiquettes, en plus, ça me file des boutons. Je veux juste qu'on me parle comme si j'étais humaine, hein, je veux juste que, voilà, qu'on me parle comme d'habitude, très mal. Si des producteurs écoutent, n'hésitez pas à me contacter, et pas que pour des rôles d'elfe, hein, parce que, en plus, je suis des oreilles. Allez, à tout de suite, le Cinoche.
Mélodie, okay.
sur scène, Mélodie, à Paris au point virgule à 20h les vendredis et samedis. À Bordeaux, ce sera le 27 septembre. À Rennes, le 8 octobre, pour son fantastique spectacle intitulé Poirana, l'air de vivre.
Et ça cartonne.
Et ceux qui sont capables de dire du mal d'eux sont souvent les meilleurs.
J'y arriverai jamais.
On s'en charge.
Meilleur jeune du jour.
Fils de sort au cinéma demain. On va accueillir Anne Brunner, directrice des études de l'Observatoire des inégalités, pour parler des filles et des fils d'eux. Et on va parler musique dans vos vies. Karine Viard, vous écoutiez en 79-80. Je rappelle que c'est le meilleur tempo pour un massage cardiaque.
Ah ouais, bon,
ouais, oui, c'est vrai. Staying c'est Alive, Reste en vie, c'est ce tempo-là pour, si vous voulez sauver quelqu'un, mettez-vous en tête cette musique-là pour...
Et avec les deux arrêts.
Appuyer avec les deux mains.
Staying Alive.
Exactement.
C'est vraiment un vrai truc de cours de...
Mais c'est pas pour ça que vous l'avez choisi, Karine Viard, qui se demande où elle a débarqué là.
Non, mais c'est bien, je me disais.
C'est l'émission de la Croix-Rouge, c'est la Croix-Rouge, vous voyez, tout est rouge, c'est la bande rouge.
J'imagine le mec qui va me masser en chantant ça.
Il vous embrasse à la
il va chanter Elle va mourir la maman.
Pourquoi cette musique?
Il va chanter Ça c'est vraiment toi, parce qu'il vous aura reconnu, c'est tout. Pourquoi cette musique arrive bien?
Je continue d'aimer les Bee Gees.
Et de danser?
Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup danser. Je peux danser seule. J'aime danser. J'aime ça, donc cette musique-là, voilà, j'avais le choix entre plusieurs.
Incontournable, elle est culte, absolument.
Oui, j'aime beaucoup.
Et vous êtes adolescente à cette période-là et vous vous inscrivez dans un atelier théâtre.
Exact.
Premier rôle, je crois que c'est Agnès dans L'École des femmes. En tout cas, c'est un des premiers rôles.
En fait, c'est ma mère, elle travaille au Club Med. Et comme elle travaille là-bas, j'y ai passé 2 mois. Et la fille du Club Théâtre est désespérée parce qu'il n'y a que des gens qui passent une semaine. Et comme je suis là, elle me dit je vais monter la pièce que j'ai toujours rêvé de monter. Je vais monter L'École des femmes. Et donc, j'ai joué Agnès, qui n'est pas le rôle qui me convient le mieux. Mais en tout cas, moi, à 13 ans, quand je me retrouve à jouer Agnès dans L'École des femmes, j'ai une révélation. J'ai joué devant 3 pleupleux en maillot de bain. Mais enfin, toujours est-il que j'ai ressenti quelque chose. Je suis rentrée à Rouen chez mes grands-parents. Et j'ai voulu faire un atelier théâtre, donc je me suis inscrite à un atelier théâtre que j'ai fait 1 an. Et puis après, j'ai demandé une dérogation pour passer le concours du Conservatoire de Rouen. Parce que j'étais trop jeune.
Ça veut dire quoi, un rôle qui me convient?
Un rôle qui me convient?
Oui, vous avez dit, c'est pas vraiment le genre de rôle qui me...
Mais parce que c'est une fille très, très candide, c'est vraiment une l'ingénue.
Vous pouvez tout jouer?
Non, l'ingénue, c'est difficile. D'abord, j'ai un physique, j'ai une voix... J'ai une personnalité.
Distribuez dans quoi alors? Vous distribuez dans quel rôle?
À l'époque, je faisais beaucoup les soubrettes, les malines, et celles qui font rire, celles qui ont du tempérament, globalement. Je suis plus la suivante que la princesse. Ouais.
François Cluzet, en 79-80, vous écoutiez. Exactement, le temps que tu vas animer quelqu'un.
Pour le nerveux.
Donne-moi un homme après minuit. Pourquoi vous choisissez ça?
Moi, je crois que c'est ma femme qui a choisi cette chanson.
Un message.
Premier film pour vous, François Cluzet, fallait quelque chose d'explosif, ça tombe bien. C'est Cocktail Molotov de Diane Curis. Première apparition sur grand écran. Vous avez 23 ans. Vous vous souvenez du rôle?
Oui,
je m'en souviens, c'était mignon.
Ah bon?
Ouais.
Je me souviens de mes partenaires, Élise Caron et Philippe Lebas. Je me souviens de Diane Curis. Je me souviens de la chance extraordinaire de tourner à Venise et de pouvoir monter sur le toit du casino, de se véhiculer à Venise dans des barques de commerçants, vous savez, c'est-à-dire la chance du cinéma de ne pas être pris comme un touriste. Et puis d'avoir pour la première fois une caméra alors que je venais du théâtre, j'étais très content. Et puis la spontanéité fonctionnait. Déjà le truc du partenaire, on jouait un trio, il fallait avoir l'oreille de ses partenaires et leur donner aussi le rythme...
L'écoute.
L'écoute, exactement. Et puis le rythme qui fait qu'ils sont valorisés. Il faut penser film et pas à soi-même. Quand on débute, c'est difficile.
Pas simple. La caméra, vous aimez bien ? Vous aimiez bien la caméra ? C'était réciproque ?
Ben ouais, enfin, je m'en rendais pas bien compte. Mais vous savez, quand vous êtes au théâtre, vous avez déjà toute cette aptitude. C'est pour ça que c'est bien de commencer au théâtre. Il y a quelque chose qui vous... Ensuite, c'est beaucoup plus délicat d'être devant 500 personnes que d'être devant 20.
Oui.
Finalement, les choses sont plus simples au cinéma. C'est beaucoup plus facile, surtout.
Au théâtre, la caméra, c'est le spectateur, c'est le public qui est l'axe, entre guillemets, principal. Vous avez déjà joué avec des actrices, des acteurs qui tournent au fur et à mesure les épaules pour être face au public et qui vous installent de dos.
Oui, bien sûr, ça arrive. Oh, c'est de bonne guerre. Mais ça m'est arrivé une fois où j'ai dit au metteur en scène, mais tu n'avais pas dit que c'était profil. Et alors le type qui m'avait mis de dos a dit, oh, mais moi ça ne me gêne pas d'être de dos. Et là, la tension est montée. J'ai dit, là, il ne faut quand même pas exagérer. Mais bon.
On a peut-être
retrouvé... Jamais les meilleurs. Hein.
Mais... non, c'est les plus prétentieux, en tout cas. On a peut-être retrouvé le nom de l'homme politique que vous aviez soutenu et dont on cherchait le nom tout à l'heure, Pierre Juquin.
Exactement.
C'est ça,
Pierre
voilà.
Juquin, qui a dû faire 0,8. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui m'avait pris, j'aimais
c'est
bien l'idée
que
le Parti communiste, on pouvait se désolidariser du PCF et puis de partir sur une... Bah, à vrai dire, j'y connaissais rien, comme encore aujourd'hui, j'y connais rien, je sais pas. Il faudrait me payer pour être convaincu.
En 80...
Il est vraiment de droite, hein. Oui. Ah ouais, vraiment changé. Hein.
En 94, Karine Viard, vous écoutiez. Youssouf N'Dour, Néné Djeri. Ah ouais, qu'est-ce que c'est bien, ça. 7 Seconds, elle évoque un moment particulier dans la carrière de Karine Viard, Leïla.
Oui, c'est la nage indienne de Xavier Duringer. En tout cas, c'est à cette époque-là que vous tournez dans ce film. C'est votre premier rôle.
Oui, tout à fait.
Et alors, la musique en lien avec cet épisode-là, il y a...
Il n'y a pas du tout de musique en lien. C'est juste que voilà, j'écoute ça à ce moment-là. Ouais, c'est ma chance. C'est ma chance, la nage indienne. Parce que... Voilà, c'est ma chance de devenir un premier rôle, parce qu'à partir de ce film, on m'envisage comme un premier rôle. Alors qu'avant, il faut imaginer que je suis une jeune fille un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai du tempérament, je suis jolie mais je joue pas du tout sur mon physique, je suis fille-garçon, j'ai des rondeurs extrêmement séduisantes, je sais pas quoi faire de ma féminité, j'ai une voix un peu particulière. Oui. Et tout ça, en fait, les metteurs en scène plus classiques savent pas trop quoi faire de moi. Et c'est vrai que quand Xavier Duringer me prend pour ce film-là, ça me propulse. En fait, après, j'ai plus jamais arrêté de travailler.
D'autant plus que vous étiez un second rôle initialement.
Oui, tout à fait. Tout
et
à
il vous fait passer en premier rôle. Donc
exact.
Il a fait...
Bah, je deviens une princesse un peu particulière, une princesse moderne, en fait. Une princesse qui peut se battre, qui s'affronte aux garçons, qui... Et ça, c'était vraiment ma chance.
En 94-95, la femme de François Cluzet, écoutez...
Très bon choix.
C'est pendant le massage cardiaque, ça. C'est... Au revoir.
Là, c'est après le massage cardiaque raté.
Oh, m'énerve, cette chanson.
Ah, moi, je suis fou amoureux de cette voix.
C'est vrai.
Ah,
ouais.
Que se passe-t-il dans la vie de François Cluzet ?
Le destin me...
Ah, le destin,
oui. Bouleverse. La beauté aussi. Puis ça me rappelle Gainsbourg. Et ce mot déplacé. Mais je sais pas, tout me plaît.
C'est quoi ce mot déplacé ?
Chez Drucker.
Il l'avait dit, I want to fuck you.
Whitney Houston.
Non, c'était...
Alors Drucker avait...
Non, j'adore ça.
Drucker avait dit...
Il vous aime beaucoup.
Il dit qu'il vous trouve très joli. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, I want to fuck you.
Et elle était choquée. Elle était choquée.
Ah, ça avait été un français.
Elle est venue, on a senti un petit moment de tristesse.
Absolument.
Ouais. À cette époque-là, François, on vous retrouve dans Les Apprentis. Vous formez un duo fou avec Guillaume Depardieu sous la direction de Pierre Salvadori, qui raconte une anecdote pendant le tournage, qu'un jour dans la rue, un passant vous interpelle en vous disant « Bonjour Jean-Hugues Anglade », et vous lui aurez répondu « Non, moi c'est Vincent Lindon ».
Ça tellement nous arrive
drôle,
souvent.
Tellement drôle.
Oui, ça nous arrive. Moi j'ai signé pas mal d'autographes pour Robin Renucci, pour Malavoie.
Daniel,
et il y a deux ans...
Daniel Auteuil, j'imagine, non
Oui, oh. Non, mais il y a deux ans, au Festival de Cannes, un type m'aborde en disant, il me prend pour Vincent Lindon. Il me dit, écoutez, pourquoi on ne prend pas mon film en fait, dans la sélection et tout ça. Là, j'ai joué le jeu, je lui ai dit, mais parce que vous savez beaucoup de films. C'est toujours très drôle de parler à la place de quelqu'un. Un autre, un journaliste m'a dit, parlez-nous de ce festival en Corse. J'ai compris qu'il me confondait avec Renucci. Donc, j'ai enchaîné avec tout.
Trop sympa.
C'est toujours très drôle.
J'ai déjà signé un livre d'or dans un restaurant d'un autre nom que le vôtre.
Non, mais par contre, ce qui m'est arrivé à Marseille, je signe le truc, puis comme ça m'emmerde, ces trucs-là, je dis merci pour l'accueil. Et puis on était toute une bande, et là, j'en vois qu'ils feuillettent le truc, puis 10 ans avant, ils me retrouvent avec marqué merci pour l'accueil. Je ne veux pas avoir un tampon, tu sais.
Un petit tips pour ceux qui, pour les acteurs et actrices comme vous, qui ne savent pas quoi écrire dans un restaurant, c'est Guy Bedos qui feuilletait en effet le livre d'or du restaurant, qui cherchait quelqu'un qui l'aimait bien pour faire croire qu'il était venu dîner avec elle ou avec lui. Et en dessous, il signait « Moi aussi, Guy Bedos ». Quelle que soit la phrase qui a été dite avant, c'est très malin.
C'est le idem de Macri.
Ouais, c'est ça.
Non, ou alors, vous mettez un truc horrible et vous signez l'autre nom. Ça, c'est drôle aussi.
Ah, Léna Cadeau.
Ça, je l'ai fait.
C'était dégueulasse.
Voilà, c'est ça.
Ça, je l'ai fait.
Coupe-gorge.
Je dirais pas qui,
plus
mais
jamais.
Je te jure, je l'ai fait.
Plus jamais. Ouais.
Je vous le dirai en antenne.
Oh,
je l'ai
fait. Ah, bah, tu vois.
Leïla.
Oui, pardon.
Que se passe-t-il dans la vie?
Bah, ça y est. François, c'est bon.
Pourtant, il est sympa, Drucker.
Ouais, c'est très bien.
Ah, bon, d'accord. Okay.
Les apprentis.
Très bien, très bien. Et bon.
Ah, bah, je peux raconter des trucs.
Puisqu'on va reprendre le cours normal de cette émission.
Oui. Ah, Nagui.
Accueillons notre spécialiste, Anne Brunner. Bonjour, Anne.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Directrice des études de l'Observatoire des inégalités. Déjà, être fils d'eux ou fille d'eux, c'est le début de l'inégalité?
On ne peut pas vraiment mesurer le métier précis et la part des politiques, des acteurs, des chefs d'entreprise qui exercent le même métier exactement que celui de leurs parents. En revanche, ce qu'on peut mesurer, c'est une reproduction sociale, en entendant le métier comme quelque chose d'un peu plus large. Hein. On sait que parmi les enfants de cadres, il y a beaucoup plus de cadres. Parmi les enfants de professions libérales, hein, les médecins, les avocats, les architectes, il y a plus de personnes qui vont exercer le même métier ou des métiers approchants, de façon plus générale, de cadres eux-mêmes, du privé ou du public. Il y a une sorte de reproduction sociale partielle. Le fait d'être né dans un milieu favorisé, avec les codes, avec l'éducation familiale, l'éducation à l'école, l'héritage pour certains, la transmission d'une entreprise qui favorise...
Le savoir-faire aussi, la connaissance, c'est-à-dire que quand on rentre dans un endroit où il y a marqué machin chose et fils, pour un tailleur, pour un menuisier, pour un garage, enfin il y a un côté, c'est familial, on est là depuis longtemps, même quand il y a écrit depuis 1800, hein, de père en fils...
Mais dedans, ça a été petit, quoi.
Ça rassure. Et puis, à l'inverse, si ce sont des chefs d'entreprise, on se dit, bah ouais, forcément, lui, il est à la tête de telle marque parce que c'est le fils du patron, ou alors le fils Sarkozy, bah évidemment, il va écrire un livre, il veut faire de la politique, c'est le fils de Sarkozy. On a l'impression qu'il y a des domaines dans lesquels c'est vu comme étant une transmission, une réussite, et dans d'autres, dans lesquels c'est vu comme une tare.
Oui, quand un chef d'entreprise est héritier de ses parents, on va valoriser le fait que c'est une entreprise familiale, par exemple, hein, sans discuter le mérite qu'il peut y avoir ou son talent personnel. Mais ça vient pas de loin, ça vient pas de nulle part. Le fait d'être éduqué au sein d'une famille, on le voit bien dans le personnage incarné par Nino Perrin. Par Nino Perrin,
Jean Chevalier qui joue le rôle de Nino.
Il apprend très jeune à lire, à apprécier le jazz, il connaît les grandes écoles, il a tous les codes déjà pour réussir à l'école. La société française, l'école française, c'est très mal réduire les inégalités sociales qui se construisent dans les familles. Mmh.
Donc, moi, je repense, pardon, aussi à ce moment de solitude où une fille reçoit un César et où son père intervient pendant les Césars et où elle dit « mon boulet ». C'est.
Oui, c'était fort, ça.
Ouais, c'était émouvant. Pour ne pas citer la famille Depardieu, donc c'était. Et c'était pas un cadeau qu'il lui faisait à ce moment-là.
en effet, hein, devoir suivre ou suivre le modèle de ses parents, de son milieu, ça peut être...
Donc ça dépend du milieu.
Ça peut être non, mais là, aussi c'est un poids.
C'est l'absence de discrétion de Gérard Depardieu lors de la cérémonie qui met tout le monde mal à l'aise, en réalité.
Ça peut être aussi quelque chose bah, qui vient questionner la légitimité des personnes qui ont réussi. Donc, on peut comprendre que ça peut être un poids. Après, c'est beaucoup plus un poids.
Je pense aussi au monde du football, par exemple, pour sortir de la politique, du cinéma et des acteurs. Les enfants de Zidane, parce que je pense à lui, tous footballeurs professionnels, ben, ont du mal à faire une carrière parce qu'il y a le nom de Zidane dans le dos et que c'est, finalement, c'est encore plus lourd que...
Est-ce que tu penses qu'ils ont du mal à... Est-ce qu'ils ont du mal à faire une carrière parce qu'ils n'ont pas le génie de leur père, ou est-ce qu'ils ont du mal à faire une carrière parce qu'ils sont eux-mêmes empêchés par ce nom qui est trop lourd à porter. Parce que le terrain, la différence, c'est que s'ils jouent hyper bien, je ne vois pas un club qui se passerait d'un fils Zidane.
Oui, et à l'inverse, est-ce qu'ils n'ont pas été pris aussi au début en disant peut-être qu'il va devenir aussi bon que.
Il y en a un qui a joué au Real de Madrid, choisi par son père en lui disant tu vas jouer, tu vas jouer en équipe 1. Mais voilà, mais le poids.
Et je ne sais pas faire la part des choses entre le poids que ça représente et puis la chance que ça représentait aussi pour eux. Tout le monde ne devient pas footballeur professionnel.
Donc, on retrouve ça dans tous les milieux sociaux, la transmission, le fils d'eux, l'héritage.
On est fils d'eux, pas seulement de chef d'entreprise, de footballeur ou d'homme politique. On est aussi fils d'ouvrier, d'employé, d'artisan, d'agriculteur. Dans chaque métier, les enfants d'un père qui a exercé un métier dans une catégorie sociale, une catégorie socio-professionnelle entendue un petit peu plus large que le métier au sens strict, ont plus de chances d'être dans la même catégorie, même si c'est pas une loi universelle et totalement déterminante. Ceci dit, le milieu social des parents est le facteur qui conditionne le plus parmi d'autres, plus que le sexe, que le fait d'avoir été, d'être immigré, le fait d'avoir vécu dans tel ou tel quartier. C'est vraiment le milieu social des parents qui a le plus d'influence sur les destins des enfants, le niveau de salaire qu'ils vont atteindre, le niveau d'études et ça se construit effectivement à travers notamment un héritage économique, mais pas seulement, l'école et les relations. Qu'est-ce qu'on a eu comme modèle autour de soi, qu'est-ce qu'on connaît comme métier qu'est-ce qu'on trouve comme stage de troisième.
C'est très intéressant ce que vous dites, vous voyez la différence entre un Zidane qui est obligé de se battre aussi pour sortir de son statut social. C'est comme un boxeur. Alors que le fils, lui, il a vécu dans un environnement très privilégié. Donc n'a pas, je le vois avec mes enfants, n'a pas la même...
Combativité.
Exactement.
Ça me fait penser aux enfants d'immigrés à l'école. Ils ont globalement, en moyenne, des moins bons résultats à l'école. Mais quand on regarde leur milieu social, un milieu social équivalent, ils ont des meilleurs résultats. Sans doute parce qu'ils sont poussés par une volonté très forte des parents.
Vous avez publié, merci Anne Brunner, le rapport sur les inégalités, l'édition 2025. Merci beaucoup d'être venu à ce micro.
Merci pour l'invitation.
Un hommage rendu maintenant par Emma Beaujean.
Tous les jours dans cette émission, je rends un hommage. Et aujourd'hui, pour faire honneur à la stratégie et parfois au jeu de hasard, je voudrais rendre hommage au Monopoly. Le Monopoly, c'est encore à ce jour le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour voir le vrai visage des gens avec qui on part en vacances. Et c'est même un test qui, selon moi, devrait être obligatoire avant d'aller plus loin avec quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié ou même au travail. Il faudrait faire une partie de Monopoly pour voir. Ici, on pourrait se faire un monop une fois juste pour se rendre compte. Moi, grâce au Monopoly, il y a des gens ici que j'ai découvert complètement. Par exemple, autour de cette table, vous pensez connaître Oldelaf. Eh bien, figurez-vous qu'au moment de choisir ses pions, ce malade mental, il a pris le dé à coudre. Bon, après, Miskine, il l'a posé à l'inverse sur le plateau. Il a dit, non, moi, je prends le petit verre à shooter. Oui, Olivier, toujours ce problème de boisson. Après, j'ai pas joué avec tout le monde ici. Je suis pas sûre de vouloir, même si j'imagine. Oh, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, oh, boulevard Malesherbes. On dit Malherbe. Oui, Leïla, c'est vrai, t'as raison. J'achète. Ah ben non, tu peux pas, c'est chez moi. Mais comment ça, Nagui? On vient de commencer la partie, je suis la première à tomber sur la case et tu joues même pas en plus. Oui, ben je veux dire, boulevard Malherbe, c'est chez moi, j'ai acheté la moitié des... Ah, sacré nag. Les jeux de plateau, globalement, c'est un concept qui est assez particulier. C'est-à-dire que t'as passé la moitié de ta vie à refrener ta vraie nature pour pouvoir te faire quelques amis. Et en 15 minutes, tu vas tout perdre. Parce qu'apparemment, c'est pas cool de prendre des sous dans la banque quand tout le monde a le dos tourné. Oh là là. Que ce soit clair, hein, pour moi, le seul but qu'il y ait de jouer à des jeux de société, c'est tricher. Hihi, droite, mon premier contrôle fiscal. Hashtag live golop. Et ça va, d'accord, je comprends. J'ai volé dans la caisse, d'accord, c'est interdit. Mais franchement, on n'a jamais mis personne en prison pour ça. Oh, humour engagé. On est dans Zoom Zoom Zen ou quoi, la team France Inter, il est 17h. Ici, on joue pas au Monopoly, on préfère la bonne paye. Allez, on avance. Carte chance, c'est la rentrée. Vous devez payer les cours de danse et la licence de judo alors que la Fiat Punto est en panne et que votre beau-père Daniel pique de l'argent dans le portefeuille de votre mère. Mais c'est pas de sa faute, c'est le casino qui triche. Normalement, le 12 rouge aurait dû sortir au moins une fois hier soir. Oui, allez Daniel, oui, oui. Bon, je disais quoi? Ah oui, jeu société de merde là. Alors, parfois, dans les jeux, on n'a pas de chance, c'est vrai, mais c'est un peu comme dans la vie, on lance un dé, on avance de 4 cases et on tombe sur un immeuble de Nagui et on se fait dépouiller, voilà. Et parfois, on a de la chance, on a énormément de chance. Dans la vraie vie, on fait 1, on avance jusqu'à la maison de la radio et on tombe vraiment sur Nagui. Il s'avère qu'on lui doit rien du tout, que même c'est lui qui nous régale, c'est une dinguerie. D'ailleurs, c'est peut-être à toi que j'aurais dû rendre hommage. Bon, j'ai pas le temps la prochaine fois, merci.
Merci Emma Beaujean.
Et là, sur scène. Ouais, sur scène au théâtre des Maturas, ce sera chaque vendredi à partir de...
Alors c'est à partir du 19 septembre.
Rappelle-toi.
Voilà. J'étais pas sûr.
Un AVC en direct, c'était gênant.
Staying alive.
Tanguy, de quoi veux-tu nous parler?
Je parlais des boomers et des humoristes de France Inter qui sont ces gens qui ont coulé la France.
Eh ouais, Dixit Bayrou. Nos invités, Karine Viard et François Cluzet, présentent Fils 2 qui sort demain au cinéma. Avec Mélanie Fontaine, avec Emma Beaujean, Oldela, Bruno Pecky, Tanguy Passureau, Daniel Morin, et nos invités Karine Viard et François Cluzet.
France Inter, la bande originale.
Karine Viard qui découvre le rouge antenne à la radio, l'ouverture des
ça
micros.
Ça lui a joué des tours déjà.
Chaque fois vous dérapez avec
nous.
Absolument.
C'est un grand moment de fou rire me concernant.
J'adore. Est-ce que vous aimez la radio, Karine Viard?
Ah, j'adore.
C'est vrai?
Ah, j'adore vraiment.
Pas seulement de l'écouter, mais d'y parler. Vous aimez?
Ah, mais j'adore. On a le temps, c'est très décontracté. On fait pas semblant de t'écouter en regardant autre chose, parce qu'à la télé, c'est toujours ça, elle part une seconde et demie, c'est beaucoup trop. Non, ici, voilà, moi j'aime beaucoup la radio.
Puis la spontanéité fonctionne à donf sur la voix. Mmh. Encore mieux, quand tu écoutes une émission, tu vois tout de suite celui qui a travaillé un peu ce qu'il dit, ou celui qui est spontané, ou celle qui est spontanée.
Il y a beaucoup de choses à la radio.
Quand on crée un personnage, justement, quel est le travail que l'on fait sur la voix? On sait qu'il y a du maquillage, la coiffure, évidemment, tous les accessoires vestimentaires, mais il y a aussi la démarche, la posture du corps. La voix fait partie de ces accessoires avec lesquels on joue.
Le rythme, la voix.
D'accord. Oui, voilà, oui, c'est vrai, rythme. Je suis d'accord avec toi.
Vous avez jamais pris d'accent?
Ah si, bien sûr, là c'est un cas particulier. Non, ouais. C'est vrai, bien sûr. Si on doit jouer en Suisse, bien évidemment.
Ça dépend où en Suisse.
Ou ils n'ont pas le même partout, c'est ça, c'est compliqué.
Moi, je ne joue pas trop sur tous ces trucs-là. Je veux dire... Il y a une espèce de, je sais pas, comme de spontanéité qui fait que quand t'enfiles un déguisement, bah peut-être tout naturellement, tu te retrouves...
On vous a jamais mis des prothèses, entre guillemets, dans la bouche pour parler comme ça, bizarrement, ou rajouter des bouts de coton pour zozoter de force, que sais-je, non?
Mais tu regardes quel film, toi, Nagui, c'est
très bien. Arrive,
je n'y croirais pas trop, moi, c'est en ce qui me concerne.
Mais j'ai pas besoin de coton, c'est ça.
C'est tout à fait ça, moi, je dois faire, après le film de Raphaël Quenard, et là je joue un maire alcoolique avec un faux ventre, et là je dis je vais mettre des cotons dans le nez et tout ça, et la maquilleuse me dit bah le problème c'est que tu vas parler du nez pendant tout le film, parce que ça marche pas à vrai dire.
Pourquoi tu voulais te mettre du coton dans le nez?
Parce qu'il saignait.
Parce qu'ils veulent me mettre un nez d'alcoolique, tu sais, bien rouge.
Une fraise. Oui, non, mais quelle horreur d'avoir une prothèse.
Ah voilà, c'est ça.
Ah, c'est
donc pas de prothèse, donc comment tu fais au maquillage? Puis je me suis dit, il faut
mon nez, c'est pas toi, un peu comme ça.
Et revenons. Ben, on s'en fout que tu parles du nez, hein. Tu seras plus confortable.
Alors, dire. À fils de, revenons à fils de.
D'ailleurs. Non, t'as l'impression que quelqu'un fait de l'escalade sur ton nez. Tout
vous êtes encore à l'antenne, Karine. Donc, ce film, fils de, où Karine Viard est conseillère du président de la République, où François Cluzet est un ancien anard un peu retiré, toujours sénateur, certes, mais je sais pas à quel rythme les sénateurs travaillent, mais
en tout cas, lui, il a envie de rester tranquille, de gérer des petits problèmes, mais très légers.
Donc
mais
de ne pas aller à Matignon et de ne pas mettre les mains dans le cambouis au quotidien. Son fils, avec lequel il est un peu en froid,
oui.
Hein, puisqu'il a même changé de nom pour ne pas être représenté comme étant le fils d'eux, est envoyé comme émissaire spécial par Karine Viard en disant c'est toi qui vas aller voir ton père, en faisant tout pour le convaincre de revenir.
Et à la clé, il y a une négociation pour toi, voilà. Un petit secrétariat d'État ou quelque chose comme ça, en fait, parce que c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'on l'aide ensuite, lui, dans sa carrière politique.
C'est ça que je voulais souligner, c'est-à-dire que ça devient une monnaie d'échange, un poste, un titre, et on ne cherche pas à savoir qui est compétent pour un poste, on lui dit bah, écoute, je vais te donner un ministère, je vais te donner un secrétaire d'État. Pardon ?
Ça, c'est pas nouveau.
Je suis naïf ?
Non, mais il y a quand même plein de gens qui sont pas quoi. En tout cas, à la culture, on a eu quelques personnes vraiment compétentes, mais on en a eu quand même pléthore qui n'y connaissaient rien, franchement.
Ça se ressent, ça se voit vite quand
ils n'y connaissent rien.
Quand on est acteur, actrice, on le voit vite.
Oui, mais bon, c'est des places politiques, si tu veux. C'est après, tout le ministère qui s'y connaît.
Ça fait penser à Rachida Dati, pardon, qui dès son premier discours a dit « Je sais que beaucoup d'entre vous sont surpris de ma nomination au poste de la culture, mais j'aime la culture, je vais tout faire pour la défendre. » Elle a commencé comme ça, en tuant le game dès le début, en disant « Ok, je sais qu'il y a des vannes qui vont arriver, je vais la faire tout de suite. »
Elle, c'est un animal politique assez incroyable.
Mais c'est pas Malraux.
Dans quel sens ?
Ah non, c'est pas Malraux, non. Non, mais est-ce que pour autant, il faut être Malraux pour être à la culture ?
Non, c'est bien
est-ce que c'est la question que ça soulève ? En effet, il y a les ministères.
De toute façon, il n'est pas dispo. Hein.
Il faut un politique, quelqu'un qui sache ne pas faire de gaffe et tout ça. Si vous...
Mais c'est vrai qu'on attend du ministère de la Culture un appétit pour la culture qu'on attend un peu moins pour le ministre du Tourisme.
Ou de la défense, oui, c'est pour la guerre.
Voilà. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Bien sûr.
Non, c'est vrai. Justement, on est en plein dans l'actualité. Qui serait nommé à Matignon si toutefois l'Assemblée nationale ne fait pas confiance à François Bayrou, qui, je me demande d'ailleurs lui-même s'il se fait confiance dans cette histoire. Enfin, on verra bien ça, c'est lundi prochain. On n'est pas là pour faire une critique politique. D'autres vont s'en charger, n'est-ce pas? Mais pour en revenir au film, tout autour du népotisme, justement, de ses fils d'eux, de ceux qui se retrouvent propulsés à des postes, l'ont-ils mérité ou pas ? Ceux qui sont sûrs d'avoir le poste, personnage d'Alex Lutz, c'est juste formidable. Le gars, il va de cocktail en cocktail, de réunion en réunion, de coup de fil en coup de fil, en balançant, et c'est ça qui est drôle aussi, il y a une scène dans le film où chacun se juge entre eux en disant trop ceci, trop cela, il y a des casseroles, il y a des dossiers, il va tomber dans pas longtemps pour une affaire de corruption, enfin, tout le monde, c'est tout de tout.
J'aime bien aussi la distribution des rôles hommes-femmes. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment dans le film politique de papa, quoi. C'est cette jeune génération qui s'empare de ça avec des femmes capables d'une grande cruauté, avec des hommes misogynes, mais obligés de faire bonne figure devant des femmes de pouvoir. Mmh. Tout ça est quand même assez jubilatoire aussi.
Et très bien joué, je pense à Soissane Abès, qui joue extrêmement bien aussi
la journaliste
qui se demande si elle va rester à la matinée. Alors que son amour rentre en politique, pas immédiatement à qui on pense quand on dit ça. Mais en tout cas, souvent, des femmes journalistes se sont posées la question ou pas de rester ou non à l'antenne en fonction des fonctions du mari.
Légitimement.
L'inverse se pose moins par moment. Enfin,
s'il y a moins de femmes politiques à une certaine époque, mais ça va se poser. Des femmes politiques qui vont vivre avec des journalistes. Pour l'instant, c'est avec le schéma, il est plutôt inverse.
Et je pense que dans le film, les gens vont pas obligatoirement penser à ce qu'ils connaissent de la politique, même si c'est assez inspiré. Pourquoi ? Parce que c'est quand même mis en scène comme une fable ou comme une farce.
C'est vrai.
Donc, l'idée, c'est de faire rire. L'idée, c'est de surprendre aussi.
Oui, c'est pas un doc sur les coulisses du pouvoir, c'est
même
sûr.
Si
il y a beaucoup de choses vraies, en tout cas, dont on peut rire.
Oui, voilà.
Ouais. François Cluzet, Karine Viard, Jean Chevalier de la Comédie Française, Alex Luce, Émilie Gavoicane, Olivier Broche et donc l'excellente Soissane Abès, avec le non moins excellent Marc Zynga, porte ce film qui sort demain au cinéma. Voici Tanguy Pastureau.
Merci. fait, j'ai réfléchi. Je crois pas me démarquer. Je vais créer un personnage. Vous connaissez Marie Saint-Filtre?
Oui.
Ah, mais si, enfin, c'est une star de l'humour. C'est comme nous tous ici, mais en star. Elle s'appelle comme ça parce qu'au début de sa carrière, elle s'infiltrait dans des lieux, des soirées. Bon, bah, moi, je vais faire Tanguy sex-filtre. Le concept, c'est que je ne vais aller à aucune soirée, aucun événement et que je vais rester chez moi à rien foutre. Enfin, un plan de carrière qui me parle et qui repose sur le mépris que j'ai de l'autre. Oui, parce que j'ai horreur des gens, surtout les boomers. Oh, les salauds. Il faut les étriper, ces fils de teckel, et les foutre à sécher devant le magasin de vrai de leur repère. J'ai écouté François Bayrou, oui, c'est moi qui ai fait ça. Pas le choix, en 5 jours, il a fait tous les médias. Je l'ai même vu dans Jardin Magazine. Il enterrait ses ambitions dans un pot à ficus, tandis que Jean-Luc Mélenchon s'approchait de lui par derrière avec une pelle. Et que dit Bayrou? Que tout est la faute des boomers. Ces gens nés après la guerre. Pour les distinguer de ceux nés pendant la guerre, c'est simple, eux n'ont pas de parents allemands. Les boomers, c'est pourriture. C'est rognure d'angle des pieds, ils sont baffrés comme des porcs. Aujourd'hui, leurs petits-enfants endettés, désespérés, se jettent sous les roues de leur 4x4 en pleurant. Ils disent « Papy René, je te hais !» avant de s'encastrer dans le moteur hybride. Les boomers, au départ, l'histoire était belle. C'était des hippies qui vivaient dans les champs à fumer de la weed, tous à poil. Ils faisaient l'amour de façon compulsive à tout ce qui se présentait. Parfois, on voyait un gros gland avec 2 jambes et 2 bras. On disait « C'est le fils que Jean-Pierre a eu avec un chêne. » Et puis un jour, alors qu'ils réécoutaient pour la 1000e fois Bob Dylan, ils se sont dit « C'est quoi cette voix de merde ?» Ils se sont levés, se sont rasés et sont partis faire de la thune. 15 ans plus tard, ils étaient tous à la Défense en train de taper de la coke en écoutant Phil Collins. Ils ont tout connu, les boomers, tout. L'amour libre, Jack Lang jeune, des décodeurs canal piratables, un président imitable facilement. Bonjour. Ils ont connu les after-shows de Prince New Morning et l'élégance de Stéphane Audran. Alors que prenez Bruno Pecky, notre jeune chroniqueur. Ses chansons préférées, ça a été des sonneries de Nokia. Et sa génération, moins de 20 drogues de synthèse dans le cornet, ils n'arrivent pas à entrer en érection. À 8 ans et demi, ils voient un psy pour essayer d'arrêter la colle. Le monde est dur et les boomers, eux, ont kiffé. Alors c'est injuste. Oui, mais le monde est injuste. Grandissez les bisounours. Et puis, si nous aussi, on était nés en 47 comme Nagui, est-ce qu'on n'aurait pas profité? Eh bien sûr que si, il y avait de l'argent à foison. C'était la caverne d'Ali Baba, avec moins d'arabes à l'époque, me dit Daniel. Tout le monde voulait devenir ministre. Le moindre type un peu perché, il allait voir Mitterrand, disait on va foutre une pyramide en verre devant le Louvre. Les mecs signaient le bon de commande avant que le roi Merlin ait livré la première vitre. On a toujours eu l'impression que ça dégorgeait à cause de leur look. Regardez Sarkozy, il se sapait comme un baron de la French Connection. Donc notre ressenti, c'est que ça roulait. Vous nous mettiez Philippe Poutou en t-shirt à trous en train de rouler ses cigarettes lui-même. Là, on serait dit, oula, il y a un truc pas clair au niveau du bilan comptable. Toutes ces années, on était en train de s'endetter et on nous disait pas qu'on était assis au bord du précipice. Regardez Macron, c'était le roi de la start-up. Avec lui, même à Châteauroux, on avait l'impression d'être dans la Silicon Valley, hein, au Columbus Café de Moulins-les-Metz. Quand on demandait quel prénom écrire sur le gobelet, on répondait Steve alors qu'on s'appelait Mathias. Tout ça pour vous dire, un, que les boomers sont le fruit d'une époque insouciante et quand tout va, on n'imagine pas que ça puisse mal se terminer. Or, tout se termine mal. Même David Charvet a fini par avoir des bajoux. Deux, qu'attention, il y a des boomers pauvres, beaucoup, qui vivotent avec des petites retraites. Eux, au moins, ne traînent pas à la boule en pantalon de toile couleur saumon. On ne dira jamais à quel point la pauvreté nous sauve du naufrage esthétique. D'autant que les boomers ne sont pas les seuls coupables. Je suis tombé sur une interview de Sarah Gnafo, vous savez, du parti d'Éric Zemmour, parce que je suis sur X, et sur X, il y a 2 onglets. L'onglet abonnement, avec les comptes auxquels vous êtes abonné. Moi, je que des gens modérés. Je lis les tweets de Pierre Moscovici le soir et je m'endors pour 17 heures d'affilée. Et l'onglet pour vous. Bon, en fait, il y a tout, paradoxalement, tout ce que vous ne voulez pas spécialement voir. Là-dessus, j'ai les posts de Sarah Gnafo et de Rima Hassan. Hein, donc, si un jour vous me voyez partir dans un rafio pour Gaza avec des étrangers qu'en chemin je pousse dans l'eau, c'est que j'aurais fait la synthèse entre ces deux femmes. Yeah. Et donc, Sarah Gnafo a eu cette phrase, je cite, on manque de tout dans les hôpitaux, mais on trouve de quoi payer le salaire de Patrick Cohen, qui doit être énorme pour qu'elle dise ça. Je pense qu'il est en train de racheter la maison de la radio et Benjamin Duhamel. Elle ajoute, nos militaires manquent de munitions, mais nous payons les humoristes de France Inter. Alors, il y a un avantage, c'est que grâce à nous, les militaires sont sans munitions. Et ça, c'est du love. Hein, le pouvoir des fleurs, dirait Laurent Voulzy sorti derrière l'autel d'une église gothique. Donc, on en reviendrait à ce qu'étaient les boomers en 66, peace and love. Et en même temps, si Poutine pousse un peu vers l'ouest, les soldats russes, on leur enverra des bisous avec la main alors qu'ils nous butent à 700 mètres de distance. Donc ça va pas suffire. Ou alors, supposition, Sarah Gnafo a raison, phrase jamais prononcée encore sur l'antenne de France Inter. Je pense qu'en régie, les gens là se suicident. Bon, il faut moins d'humoristes à Inter. C'est là que Tanguy Sexfiltre pourrait intervenir, parce que je resterai chez moi, tandis que chaque militaire, par un effet de transfert, recevrait 14 chars d'assaut. Parce que je prends très cher, figurez-vous. Plus que Patrick Cohen.
Bien. Tanguy Pasturo.
Tanguy sur scène le 17 octobre prochain à La Souterraine, ça se trouve dans la Creuse.
On parle de Fils 2, le film sort demain, c'est évidemment dans un cadre politique, mais c'est aussi des histoires d'amour dans un couple, des histoires d'amour aussi entre un père et un fils, ou des tensions, des rapprochements, des transmissions, ou des histoires d'amour solitaire aussi, une très belle scène d'onanisme, n'est-ce pas Karine Viard, tout ça dans ce film qui sort demain au cinéma, et d'autres événements culturels, oui. Leïla.
Un film à voir ce soir sur Canal+, un film très fort, récompensé d'un Lion d'or à la Mostra de Venise. C'était en 2024. Ce sont les retrouvailles de deux amies. L'une d'elles, une ancienne reporter de guerre, est sur le point de mourir, atteinte d'un cancer des ovaires de stade 3. Elle, c'est Tilda Hamilton. Absolument, absolument. Le film, c'est La Chambre d'à côté avec Tilda Swinton, qui incarne donc cette femme sur le point de mourir, et son amie Julianne Moore devant la caméra d'Almodovar pour son premier film en anglais.
Vous l'avez déjà vu ?
Je l'ai vu, oui, je l'ai vu à sa sortie.
Alors ?
J'étais pas fan, moi.
D'accord.
Lors de son discours de remerciement pour ce Lion d'or, il s'est prononcé en faveur de l'euthanasie, considérant que c'est un droit fondamental, qu'il a conscience que ce droit pouvait s'opposer à des croyances selon lesquelles Dieu est à l'origine de la vie, mais que l'être humain doit être libre de vivre et de mourir lorsque la vie devient impossible. Est-ce qu'il y a des films qui ont changé votre avis sur quelque chose, votre vision du monde, ou qui ont laissé une très grosse trace dans votre vie ?
Moi, je dirais globalement que la littérature, le cinéma, voire même la musique, a la capacité de m'ouvrir, de me rendre meilleure, de me rendre peut-être plus généreuse.
Qu'est-ce qui vous a rendu récemment, ou moins récemment, plus généreuse, ou plus ouverte sur un sujet, peut-être ?
Il n'y a même pas besoin d'un sujet. Moi, je sais que j'ai lu un livre que j'ai adoré et dont vient de sortir la suite, qui est un livre de Joyce Maynard qui s'appelle « Où vivaient les gens heureux ?» et qui m'a ouvert à une forme de, je sais pas, de générosité, d'une certaine façon, un sentiment de pardon. C'est le parcours d'une femme, comme ça, c'est toute une vie. Et après tout, tu te dis, mais c'est valable, même si tu t'engueules avec les gens, même si tu n'es plus d'accord, même si tu n'as plus envie de te voir. Au fond, ça a existé. Et, et tu dois remercier la personne peut-être qui a partagé ta vie avec toi, d'avoir fait exister cette partie-là de ta vie. Ça attendrit quelque chose. Après, il y a des tu vois des films qui développent des sujets et ça te fait changer d'avis. Je trouve que c'est l'avantage aussi de l'art, en fait.
Ouais. Et vous, François, est-ce qu'il y a...
Moi, je pensais au regard sur les handicapés avec Intouchables. Par exemple, pendant le tournage, moi, je restais beaucoup dans le fauteuil pour y prendre place, quoi. Et je voyais que l'équipe ne s'approchait jamais de moi.
Ah.
Et comme si s'approcher d'un handicapé, c'est attraper son handicap.
Ouais.
Et ensuite, j'ai vu l'effet que faisait le film pour finalement retrouver aussi dans des avant-premières des gens qui sont en chaise roulante et tout ça. Et ça m'a fait bien plaisir de penser qu'on avait... Allez, un tout petit peu sur le curseur, mais fait bouger un peu les choses.
Complètement, comme le truc en plus d'Artus.
Oui, voilà, comme le film d'Artus.
Un autre film, mais cette fois-ci un film qui va sortir. On a découvert la bande-annonce en noir et blanc, sous un soleil de plomb. On est dans les années 30. Le film est adapté d'un livre que nous connaissons tous. Nous connaissons tous
l'équipe Winslet.
Non, c'est L'étranger. Ah, okay. C'est L'étranger de François Ozon, qui va sortir le 29 octobre. Un film présenté à Venise avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder et Pierre Lottin. Chef-d'œuvre de la littérature française qui avait déjà été adapté par le passé par Luchino Visconti avec Marcello Mastroianni dans le rôle titre. Mm-hmm. François Ozon raconte que cette adaptation-là a aussi pour lui une portée plus personnelle. Et il raconte que son grand-père maternel était en fait juge d'instruction en Algérie, qu'il a échappé à un attentat en 56 et cette tentative d'attentat en tout cas a provoqué le rapatriement de toute la famille en France, en tout cas sur le continent, puisque l'Algérie était la France à cette époque-là. Et Ozon observe que finalement c'est un sujet, à chaque fois qu'il en parle, qui résonne chez nombre d'entre nous tellement l'histoire avec l'Algérie et le silence qui a pu s'en suivre est toujours là, est toujours présent. Est-ce qu'il y a, vous, un pays avec lequel vous entretenez un lien particulier, où il y a une histoire familiale, il y a quelque chose qui vous rapproche ou qui vous rapproche sans cesse sans que vous compreniez pourquoi ?
Moi, j'aime beaucoup le Maghreb, mais j'ai vécu les quatre premières années et demie de ma vie en Algérie.
Vous êtes née à Oran ?
Non, je ne suis pas née à Oran, mais j'y suis arrivée à 3 semaines.
Vous êtes née où ?
Je suis née à Rouen.
À Rouen.
Dans la ville
C'est presque les mêmes lettres. Ouais,
des parents de ma mère. Et puis voilà, dès que j'ai eu quelques semaines, je suis retournée là-bas puisque mes parents habitaient là-bas. Et j'ai un rapport très viscéral au Maghreb, en fait, à cette odeur, à cette culture, à, je sais pas, à la poussière, à la couleur des, à la couleur du paysage. L'Algérie, j'y suis retournée beaucoup après quand j'étais enfant. Et puis ça s'est arrêté quand j'ai eu, je sais pas, 11, 12 ans et je n'y suis plus jamais retournée. Non. Mais j'ai un rapport avec
ça. Seul un film pourrait vous faire y retourner ou un voyage comme ça?
Oui, un voyage. Ouais. Oui, l'Algérie, c'était sublime. C'était magnifique.
Et vous, François?
Moi, mon épouse est marocaine. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on va au Maroc, j'ai aussi un tout petit peu l'impression d'avoir un pays d'adoption. Mais ce qui est intéressant aussi sur l'étranger, Jean-Louis Trintignant voulait mettre en scène le film avec moi il y a bien longtemps. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelle adaptation a fait Ozon. Parce que j'ai lu qu'il avait pris beaucoup de liberté par rapport. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un scénariste hors pair, Ozon. Donc, j'ai hâte de voir.
Réponse le 29 octobre. Voilà, en salle.
On va être passion. Dans les projets, puisqu'on parle de l'avenir, Karine Viard, vous êtes prochainement dans une série britannique, pardon, vous jouez une Française dans Vanish, c'est ça?
Exactement, c'est britannique et américain, c'est... Voilà.
Et quand on
parle anglais.
Ce que j'allais dire, oui.
Je parle anglais.
Quand on joue la Française qui parle anglais, il faut arriver à suivre les répliques des autres aussi et les intentions. Ça demande une concentration particulière ou au contraire ça aide, comme on parlait tout à l'heure des accessoires, des tenues vestimentaires.
Ben je vous dis tout de suite. En fait, avant d'être prise pour ce rôle, je me sentais totalement incapable de parler anglais. C'était mon complexe de classe.
D'accord.
C'était vraiment le saut où on me disait, ok, t'as eu droit à beaucoup de choses venant là d'où tu viens, mais parler anglais, c'est pas pour toi, ok? Donc moi, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai évolué avec cette idée que l'anglais n'était pas pour moi. Et puis une porte s'est ouverte avec fracas. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis totalement capable de parler anglais. Et j'adore ça. Et j'ai pas le trac. Et j'ai été super à l'aise. Je me suis dit, pourquoi je me suis interdit ça pendant
Est-ce qu'on joue de la même manière en français et en anglais?
Alors, je sais pas si on joue de la même façon, parce que je me suis pas regardée, je me regarde pas en français, je me regarde pas plus en anglais, mais ce que je sais, c'est que j'ai eu l'impression de revenir aux bases, c'est-à-dire d'être une jeune actrice, de me retrouver vraiment en culotte dans la cour de récré, et de dire, mais je sais pas, en fait, je sais pas ce que je vaux, je sais pas de quoi je suis capable, mais je sais que j'ai eu beaucoup de joie et que je me suis énormément amusée. C'était super.
Oui, c'est très intéressant. Moi, je parlais pas bien anglais quand pour faire Autour de minuit, d'un seul coup, le producteur a dit à Tavernier, mais il faut vérifier s'il parle anglais. Je suis, oh merde. J'ai appris deux phrases par cœur et j'ai rencontré le producteur en lui balançant les deux phrases que j'avais fait par cœur et ça a marché, la blague. Mais pour répondre, mais c'est l'audace. Mais pour répondre à votre question, Nagui, vous savez les répliques de l'autre. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de concentration supplémentaire. Parce que vous avez lu dans le script. Je vais lui dire ça, il va me répondre ça.
Vous parliez de l'écoute tout à l'heure.
Ah oui. Mais dès lors que vous savez ce que la personne, la partenaire vous dit, bon, finalement, c'est très facile. C'est comme le français. Oui. Depardieu disait un truc très intéressant. Il disait, il faut donner les dialogues comme si c'était du chinois. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que n'importe quelle langue, ça fonctionne, il me semble.
Dans l'avenir, vous serez, on parle du plaisir féminin, justement, avec la scène d'onanisme jouée par Karine Viard.
Je préfère ne pas parler de ça.
Dans Fils 2. pourtant, vous la jouez bien. Pour le plaisir, ça sera le prochain film de Rim Kérissi dans lequel vous jouez, c'est ce que je voulais dire. Et puis, vous êtes en tournée avec cette pièce qu'on a adorée ici et dont on a parlé. Encore une journée divine, ce seul en scène sur l'enfermement, sur la maladie, sur aussi toute la psychologie de ce personnage, mise en scène par Emmanuel Noblet. Vous serez le 5 mars à Caluire et Cuire à Lyon, dont on parle tristement en ce moment de cette ville, mais ça n'enlève pas le spectacle qui lui aura lieu le 5 mars, le 18 avril à Cannes et le 5 mai à Thionville. Pour l'instant, le film sort demain et c'est Fils 2. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, déjà, désolé pour Karine Viard qui plusieurs fois dans cette émission a été surprise, voire trahie par le rouge du direct de l'émission. Oui, Karine, vous avez été très mal accueillie ce matin. C'est quoi ce journaliste qui se permet de causer à distance avec Nagui et qui vous reprocherait presque de causer tranquillou avec François Cluzet?
excusez. Karine Biard, qui en plus ce matin était encouragée à voir un film d'Almodovar qu'elle n'a pas aimé. Vas-y qu'on insiste. Karine, la prochaine fois, promis, ce sera tapis rouge. Hein, vous parlerez à l'antenne pendant les infos, même si ça vous chante. Désolé pour Emma Beaujean et Bruno Pecky, les deux ados rebelles de l'émission, qui ont découvert ce matin qu'ils étaient dans une émission de droite qui invitait des artistes anciennement de gauche et aujourd'hui ultra-conservateurs. Vous vieillirez comme tout le monde, bande d'ados bolcheviques, comme tout le monde. Bon, pas comme Oldolaf quand même, mais vous aimerez aussi Michel Sardou un jour, j'en suis sûr. Désolé pour tous ceux de bonne volonté hein, qui étaient prêts, en cas de problème cardiaque, à aider, voire sauver François Cluzet en lui prodiguant le massage cardiaque sur Staying Alive. Mauvaise idée, vous avez entendu votre idole, si vous le touchez sur les Bee Gees, il cogne. Bah, il est comme ça. Il est sanguin et ne goûte pas du tout au discours.
Merci Karine Viard, merci François Cluzet, bravo. Fils de demain au cinéma et demain à la radio, c'est Jean-François Piège qui sera notre invité. Miam, tout de suite. Dorothée Barba et son carnet, ses carnets de campagne. Qu'y a-t-il aujourd'hui dans les carnets, Dorothée?
Bonjour les amis, on parle aujourd'hui d'une malformation qu'on appelait auparavant le bec de lièvre. On parle aujourd'hui de fente faciale. Oui. Ça concerne 3 naissances par jour en France. Je donne la parole à une association qui soutient les parents et qui les accompagne.
Merci Dorothée, bonne émission.
Salut. Salut.